Il y avait une foule de Russes à habiter dans ce coin, mais le médecin était français, le docteur Martineau. Albert l'avait connu en juin, lors des premières crises. On ne savait pas comment Édouard avait pu se procurer de la morphine pendant son séjour dans les établissements de santé, mais il s'était terriblement habitué. Albert essayait de le raisonner. « T'es sur la pente savonneuse, hein, mon petit père, on va pas pouvoir continuer comme ça, il faut te soigner !» Édouard ne voulait rien entendre, il se montrait aussi têtu que pour cette histoire de greffe qu'il avait refusée. Albert ne comprenait pas. « Je connais un cul-de-jatte, disait-il, celui qui vend les billets de loterie rue du Faubourg-Saint-Martin. Il a été hospitalisé à la caserne Février, à Châlons. Il m'a parlé des greffes qu'ils font maintenant. Bon, si les gars n'en sont pas devenus jolis-jolis, ça vous a quand même figure humaine. » Mais Édouard n'écoutait même pas. C'était des noms, et encore des noms. Il continuait à aligner des réussites sur la table de la cuisine et à fumer ses cigarettes par une narine. Il exhalait en permanence une odeur épouvantable, forcément, toute cette gorge à ciel ouvert. Il buvait avec un entonnoir. Albert lui avait dégoté un appareil masticateur d'occasion. Le type était mort après une greffe qui n'avait pas pris un vrai coup de peau. Ça simplifiait un peu la vie, mais malgré cela, tout était compliqué. Édouard était sorti de l'hôpital Rollin début juin. Quelques jours plus tard, il avait commencé à manifester des signes inquiétants d'anxiété, des frissons qui le remuaient de la tête aux pieds. Il transpirait énormément, vomissait le peu qu'il mangeait. Albert se sentait impuissant. Les premières attaques dues au manque de morphine avaient été si violentes qu'il avait fallu l'attacher dans son lit, comme en novembre dernier à l'hôpital, c'était bien la peine que la guerre soit terminée, et calfeutrer la porte pour que les propriétaires ne viennent pas le tuer afin d'apaiser ses souffrances et les leurs. Édouard était effrayant à voir, un squelette habité par un démon. Le docteur Martineau, qui demeurait tout près, avait alors accepté de venir lui faire une piqûre, un homme froid, distant, qui disait avoir pratiqué 113 amputations dans les fossés en 1916. Édouard avait alors retrouvé un peu de tranquillité. C'est par lui qu'Albert avait contacté Basile, devenu son fournisseur. Il devait faire des cases de pharmacie, d'hôpitaux, de cliniques. Il était spécialisé dans les médicaments. Il pouvait vous trouver tout ce que vous vouliez. Peu de temps après, coup de chance pour Albert, Basile lui avait proposé un lot d'ampoules dont il voulait se débarrasser, une sorte de promotion, de déstockage, en quelque sorte. Albert notait scrupuleusement le nombre d'injections et les quantités sur un papier avec les jours, les heures, les doses pour aider Édouard à maîtriser sa consommation, et il lui faisait la morale à sa manière, ce qui n'avait pas beaucoup d'effet. Mais, du moins, à ce moment-là, Édouard allait mieux. Il pleurait moins, même s'il ne dessinait plus malgré tous les carnets et les crayons qu'Albert lui avait apportés. On aurait dit qu'il passait tout son temps allongé sur le divan de récupération, à bâiller aux corneilles. Après quoi, à la fin de septembre, le stock s'était trouvé épuisé et Édouard aucunement sevré. En juin, il était à 60 mg par jour et à 90 trois mois plus tard. Albert n'en voyait pas le bout. Édouard vivait toujours reclus, s'exprimait peu. Albert, lui, ne cessait de courir après l'argent de la morphine que pour courir après celui du loyer, des repas, du charbon. Les vêtements, c'était hors de question, beaucoup trop cher. L'argent fondait à une vitesse vertigineuse. Albert avait placé tout ce qu'il pouvait au Mont-de-Piété. Il avait même baisé Madame Monestier, la grosse patronne de l'horlogerie mécanique pour qui il faisait des enveloppes. En échange, elle avait arrondi son salaire. C'était ce que se disait Albert. Dans cette histoire, il jouait volontiers les martyrs. En fait, il n'avait pas été si mécontent que cela de l'occasion, près de 6 mois sans femme. Madame Monestier avait des seins énormes. Il ne savait jamais quoi en faire. Mais elle était gentille et pas avare pour faire cocu son mari, un sale con de l'arrière qui disait que tous ceux qui n'avaient pas la croix de guerre étaient des planqués. Le plus gros du budget, évidemment, c'était encore la morphine. Les cours flambaient parce que tout flambait. Il en allait de cette drogue comme du reste. Son prix était indexé sur le coût de la vie. Albert regrettait que le gouvernement qui, pour freiner l'inflation, avait mis en place un costume national à 110 francs, n'eût pas instauré dans le même temps une ampoule nationale de morphine à 5 francs. Il aurait pu aussi instaurer un pain national ou un charbon national, des chaussures nationales, un loyer national et même un travail national. Albert se demanda si ce n'était pas avec ce genre d'idées qu'on devenait bolchévique. La banque ne l'avait pas repris. L'époque était déjà lointaine où les députés déclaraient la main sur le cœur que le pays avait une dette d'honneur et de reconnaissance vis-à-vis de ses chers poilus. Albert avait reçu une lettre expliquant que l'économie du pays ne permettait pas de le rembaucher, que pour cela, il aurait fallu congédier des gens qui, pendant 52 mois de cette rude guerre, avaient rendu de signalés services à notre maison, etc. Pour Albert, trouver de l'argent était devenu un travail à plein temps. La situation s'était singulièrement compliquée quand Basile avait été arrêté dans une sale affaire avec des drogues plein les poches et du sang de pharmacien jusqu'au coude. Sans fournisseur du jour au lendemain, Albert avait fréquenté des bars louches, demandé des adresses ici et là. Finalement, dénicher de la morphine ne s'était pas révélé si difficile que cela. Vu le coût de la vie qui ne cessait d'augmenter, Paris était devenu le carrefour de tous les trafics. On trouvait de tout. Albert avait trouvé le grec. Le docteur Martineau désinfecta la plaie, la referma. Albert eut un mal de chien et serra les dents. « C'était un bon couteau », lâcha le toubib sans autre commentaire. Il avait ouvert la porte sans discuter ni poser de questions. Il habitait à un troisième étage, dans un appartement quasiment vide aux rideaux perpétuellement tirés, avec partout des caisses de livres éventrés, des tableaux retournés contre les murs, juste un fauteuil dans un coin. Le corridor d'entrée servait de salle d'attente avec deux malheureuses chaises qui se faisaient face. Ce médecin aurait pu être notaire s'il n'y avait pas eu cette petite pièce, au fond, avec un lit d'hôpital et ses instruments de chirurgie. Il demanda à Albert moins cher que la course en taxi. En sortant, Albert pensa à Cécile. Il ne sut pas pourquoi. Il décida de terminer le chemin à pied. Il lui fallait du mouvement. Cécile, la vie d'avant, les espoirs d'avant. Il se trouvait bête de céder à cette nostalgie un peu sotte, mais à marcher ainsi dans les rues, son carton à chaussures sous le bras, la main gauche en turbanée, à ruminer toutes ces choses devenues si rapidement des souvenirs, il avait l'impression d'être un apatride. Et depuis ce soir, un voyou, peut-être même un assassin. Il n'avait pas la moindre idée de la manière dont cette spirale pourrait s'arrêter. À moins d'un miracle. Et encore, parce que des miracles, il en était survenu un ou deux depuis sa démobilisation, ils avaient tous viré au cauchemar. « Tenez, Cécile, puisqu'Albert pensait à elle. Le plus difficile avec elle était venu d'un miracle dont le messager était son nouveau beau-père. Il aurait dû se méfier. Après le refus de la banque de le reprendre, il avait cherché, essayé toutes sortes de choses. Il avait même participé à la campagne de dératisation. À 25 centimes le rat crevé, sa mère lui avait dit qu'il n'était pas prêt de faire fortune. D'ailleurs, tout ce qu'il avait réussi, c'était à se faire mordre, rien d'étonnant, il avait toujours été maladroit. Tout ça pour dire que, 3 mois après son retour, il était encore pauvre comme Job. Tu parles d'un cadeau pour sa Cécile. Madame Maillard la comprenait. C'est vrai, quel avenir il représentait pour elle qui était si jolie, si délicate. À la place de Cécile, on voyait bien que Madame Maillard aurait fait pareil. Et donc, après 3 mois de bricolage, de petits travaux en attendant la prime de démobilisation dont on parlait tout le temps, mais que le gouvernement était incapable de payer, le miracle, son beau-père lui avait trouvé un emploi de liftier à la Samaritaine. La direction aurait préféré un vétéran avec davantage de médailles à exhiber, rapport à la clientèle, mais bon, on prend ce qu'on trouve, on prit Albert. Il conduisait un bel ascenseur à claire-voie et annonçait les étages. Il ne l'aurait jamais dit à personne. Il se contenta de l'écrire à son camarade Édouard. Ce travail ne lui plaisait pas trop. Il ne savait pas au juste pourquoi. Il le comprit un après-midi de juin où les portes s'ouvrirent sur Cécile, accompagnée d'un jeune type aux épaules carrées. Ils ne s'étaient pas revus après la lettre qu'elle lui avait écrite et à laquelle il avait simplement répondu « D'accord ». La première seconde fut sa première erreur. Albert fit mine de ne pas l'avoir reconnue et s'absorba dans la commande de l'ascenseur. Cécile et son amie allaient tout en haut, un parcours interminable avec arrêt à chaque étage. La voix d'Albert s'enrouait à l'annonce de chaque rayon, un calvaire. Il respirait malgré lui le nouveau parfum de Cécile, élégant, chic, qui sentait l'argent. Le jeune homme aussi sentait l'argent. Il était jeune, plus jeune qu'elle. Albert trouva cela choquant. L'humiliant, pour lui, ce n'était pas tant la rencontre avec elle que d'être surpris en uniforme de fantaisie, comme un soldat d'opérette avec des épaules à pompons. Cécile baissa les yeux. Elle avait vraiment honte pour lui, ça se voyait. Elle se frottait les mains l'une contre l'autre et regardait ses pieds. Le jeune type aux épaules carrées, lui, détaillait l'ascenseur avec admiration, visiblement ébloui par cette merveille de la technologie moderne. Pour Albert, jamais minutes ne semblèrent aussi longues, à l'exception de celle où il avait été enterré vivant dans son trou d'obus. Il trouva d'ailleurs une obscure ressemblance entre les deux événements. Elle sortit avec son ami au rayon lingerie, ils n'avaient même pas échangé un regard. Albert abandonna son ascenseur au rez-de-chaussée, quitta son uniforme et partit, sans réclamer son compte, une semaine de travail pour rien. Quelques jours plus tard, l'avoir vu ravaler à cette fonction domestique, l'ayant peut-être attendri, Cécile lui rendit sa bague de fiançailles par la poste. Il voulut la renvoyer, il ne demandait pas l'aumône, il avait donc l'air si pauvre que cela, même dans son grand uniforme de laquais. Mais les temps étaient vraiment difficiles. À 1,50 € le caporal, il fallait économiser. Le charbon avait atteint des prix fous. Il alla placer la bague au Mont-de-Piété. Depuis l'armistice, on disait « crédit municipal ». Ça sonnait plus républicain. Il en aurait eu des choses à récupérer là-bas s'il n'avait pas déjà fait une croix dessus. Après cet épisode, Albert n'avait pas trouvé mieux qu'un emploi d'homme sandwich. Il portait des panneaux de réclame dans les rues, un devant, un derrière. Ça pesait un âne mort, ces trucs-là. Avec des affiches vantant les prix de la Samaritaine ou la qualité des bicyclettes de Dion Bouton. Sa hantise était de recroiser Cécile. Revêtu d'un uniforme de carnaval déjà, ça avait été dur, mais tout enveloppé d'affiches pour le Camp Paris, ça lui semblait insurmontable. Un truc à se jeter à la Seine.